Émission un peu spéciale aujourd'hui avec vous, Annick Baléry, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Je sens que je vais passer un mauvais quart d'heure.
Mais non.
Parce que vous voulez inverser les rôles
voilà.
Cette fois-ci.
Non, mais j'étais une gentille maîtresse, je ne m'étais pas au coin. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Dites-moi tout.
Oui, alors voilà, moi pour une fois, j'avais envie de vous interviewer et de savoir quel était votre vécu en vert. Première question, est-ce que vous avez des souvenirs de jardin d'enfance?
Non. Les jardins d'enfance, mon père avait un jardin, mais il n'y cultivait pas ni des légumes, ni quoi que ce soit. Il commercialisait des touillas, voilà, pour faire des...
D'accord.
Donc en fait, le jardin, il avait des touillas qui laissaient pousser, et puis après, il avait des clients qui... Et donc, il vendait une partie de sa production de touya pour faire des haies qui ensuite, après, entretenait régulièrement pour avoir une haie magnifique et remplacer certains touyas qui étaient morts ou qui avaient eu la maladie.
Donc, c'était une pépinière. Hein.
Une sorte de pépinière, oui. Donc, non, je ne peux pas dire que mon père...
Il faisait des boutures, donc.
Oui, voilà, des boutures, ce genre de choses. Voilà.
Vous en souvenez de ça?
Non. C'était vraiment quelque chose... Pour tout dire, je n'étais pas, quand j'étais jeune, j'étais pas un garçon d'extérieur. J'étais plutôt d'intérieur.
Voilà. Et donc, maman, elle cultivait des choses à la maison?
Non, du tout.
Même pas le géranium sur la fenêtre?
Non, même pas. Mon père qui a ramené. Bon, voilà, non.
Bon, ça va être court, alors, comme interview.
J'envie des jardins ou des gens qui font leur propre... qui ont un petit jardin, qui récoltent leur... je les envie parce que c'est quelque chose de joli. Je pense qu'on prend plaisir. J'avais planté quelques plantes de fraises. Et c'est vrai qu'aller les chercher et puis même les manger sur place, là, parce qu'elles sont bonnes, elles sont sucrées. C'est sympa, mais non, j'ai... Alors, je dis que je n'ai pas de temps, ça, c'est pas vrai. Je n'ai pas vraiment l'envie, parce que quand on aime les choses, on trouve le temps pour le faire.
Oui, après, quelquefois, on n'ose pas se lancer non plus. Hein.
Oui, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui... si on n'a pas quelqu'un un peu au départ pour nous aiguiller, on a l'impression que c'est insurmontable, qu'on va faire des bêtises, qu'on ne plante pas au bon endroit, que la terre n'est peut-être pas assez bonne, qu'on n'a pas planté le truc assez profond ou trop profond. On est un peu... Voilà, donc on ne fait pas. C'est dommage.
Oui. Des grands-parents?
Alors oui, sûrement des grands-parents qui en faisaient, mais nous, quand c'était quand on allait voir les grands-parents, c'était le repas dominical, le midi, voilà, les grands, les adultes discutaient, nous on s'amusait un peu par là et puis c'était tout.
Mmh.
Pas de vacances chez les grands-parents. En ce qui me concerne.
Oui, est-ce que vous m'avez dit...
Pauvre Annick, alors vous allez voir ce que c'est que dans la radio, lorsqu'on a un mauvais client.
Non, mais après, moi, j'ai retenu ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que souvent, ben, on n'ose pas. Et bon, moi, je me débrouille quand même un peu. Et les gens, ils imaginent toujours qu'on a toujours su. Moi, j'ai été élevée en appartement. Bon, j'avais un grand-père qui avait un jardin, mais bon, on voyait ça de loin aussi. Et des erreurs, on en fait plein. Enfin, c'est comme d'autres choses. Alors, c'est un peu le problème de l'enseignement français. On a l'impression qu'on sait d'un coup, là, qu'il n'y a pas d'effort, qu'il n'y a pas de tâtonnement, que ce sont des savoirs qui se construisent, en fait, hein, par les erreurs. Et puis, on n'a pas tous des jardins qui sont pareils, donc on peut pas toujours donner un savoir à quelqu'un puisque son jardin va avoir une terre différente, une exposition différente. Et, en fait, moi, quand je rencontre des groupes, quand je vois des gens, souvent, le gros travail, c'est de leur enlever les complexes. Et de leur dire, mais allez-y, qu'est-ce que vous risquez? Un paquet de graines, 3 euros, lâchez-vous, enfin, c'est possible. Quoi, voilà.
Après, c'est beaucoup d'entretien, parce que je pense que, par exemple, quand je vois les jardiniers, ils y sont tous les jours, ils enlèvent les mauvaises herbes, les sillons sont propres, les trucs sont nickel. Alors ça, c'est joli, c'est magnifique, mais alors... c'est une passion. C'est...
Oui, mais c'est une vision du jardin aussi qui est très militaire. Hein. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, je respecte. Hein. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Ça fait un peu les jardins à la française de la Renaissance, vous savez, avec les spirales qui sont dessinées en buis, rien qui dépasse, on sort le ciseau à ongles dès qu'il y a une feuille qui n'est pas dans l'alignement. On peut tout à fait faire des choses beaucoup plus libres, par exemple faire un jardin, une plate-bande toute ronde, dans laquelle on va faire un genre de tipi, où on va faire grimper des tomates. Il faut le faire aussi par rapport à ses moyens. Hein. Par exemple, quand on est une femme seule, on n'a pas forcément ni l'énergie, ni le savoir-faire pour mettre des piquets impeccables, machin. Bah, il faut essayer de bricoler un peu. Mmh. Et puis mélanger. Alors, ce qu'on oublie aussi beaucoup, c'est que déjà, en temps de réchauffement climatique, peut-être accumuler les fleurs, les légumes et pas laisser de place libre comme on faisait avant avec les sillons nickel, c'est peut-être le jardinage du futur. Hein. Ce que beaucoup appellent la permaculture, mais voilà, c'est redécouvrir le fonctionnement de la nature d'une façon un peu différente. Quoi. Et puis, on a aussi des jardins qui ont beaucoup rétréci. Donc, on n'a pas forcément non plus la place pour mettre 25 poireaux. Ou voilà,
Après, le souci aussi, c'est que souvent, on a des récoltes qui arrivent. C'est-à-dire qu'on n'a rien pendant un moment et puis tout arrive d'un coup. Et on ne sait pas trop. Alors, on en donne, on en met en congélateur, mais des fois, les congélateurs ne sont pas extensibles.
Pourquoi ? Parce que souvent, on a un linéaire dans le jardin et que ce linéaire, on le remplit avec la même...
Que des haricots verts.
Voilà,
ou que des,
sans tenir compte des besoins. En fait, pour avoir une harmonie simplement pour des questions esthétiques... Hein. On a un jardin qui fait tant de long, ben tout le long, on va mettre de la tomate. Et puis le rayon, ce qui est à côté, on va mettre du chou. Et puis après, ben en fait, on va se retrouver avec des surplus de récolte. Alors, on peut imaginer de les partager, faire des échanges. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de choux, toi, tu as des haricots. On peut imaginer ça aussi. On peut aussi revenir comme avant, faire des conserves. Hein. Ça peut être une façon aussi de faire face à l'inflation. Hein.
Alors ça aussi, c'est compliqué parce qu'il faut avoir un trépied, parce qu'on ne le fait pas souvent sur son propre gaz, parce que c'est compliqué. Donc un trépied, qui veut dire aussi 1h30 ou 2h, on a toujours peur de louper la stérilisation, trop cuit, pas assez cuit. Et quand on ouvre l'air... Enfin, on se fait... Peut-être qu'effectivement, c'est parce qu'on a le ventre plein et que c'est pratique d'aller acheter les légumes tout préparés, là, tout fait, et qu'on ne veut pas s'embêter. Mais c'est vrai que mon père, il faisait des haricots verts quand même. Hein, je dis qu'il faisait ça, mais les haricots verts du jardin de mon père, hein, ça n'a pas, mais c'est carrément autre chose. Ça n'a pas le goût des haricots verts classiques qu'on a. C'est carrément un autre goût. On a l'impression que c'est un autre légume.
Alors il y a aussi le fait que dans le jardin, on va pouvoir cultiver des variétés que on va pas forcément cultiver à grande échelle dans le commerce. Des variétés familiales qui vont avoir beaucoup de goût, mais qui vont peut-être être moins transportables ou moins rentables, enfin, qui vont être moins productives. Et du coup, c'est ce goût des variétés anciennes qu'on ne retrouve plus. Par exemple, les variétés de tomates peuvent être sélectionnées pour leur résistance au choc. Et pas par le goût qu'elles vont avoir. Donc on pleure un peu. Puis il y a le fait de ramasser aussi avant la complète maturité qui fait qu'on va pas avoir la même chose. La tomate sur le tomatier, j'allais dire. La tomate sur le plant, arrivée à maturité, toute chaude de soleil encore, rien à voir avec celles qui sont à moitié mûres et qui seront passées dans les cajots et voilà.
Oui, qui auront fini de mûrir dans les cajots.
Voilà, ou qui seront passées dans les frigos. Il faut se permettre ça. Alors, on n'est pas obligé non plus d'avoir une grosse production, mais pourquoi pas se permettre d'avoir quelques pieds de tomates cerises, vous savez, pour picorer. Oui. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête pour savoir si on va faire de la ratatouille. Et en même temps, on a le plaisir d'avoir fait pousser quelque chose.
Je vous avoue qu'on avait fait, on avait planté un framboisier.
Oui.
Qui prend aussi pas mal de place au bout d'un moment.
Ça galope. Hein.
Oui, ça galope pas mal et ça redevient un peu comme avec des grosses, on dirait des, qu'on appelle ça là, des,
Des ronciers.
Des ronciers, voilà, ouais. Ça ressemble un petit peu à un roncier. Mais moi, j'aime bien quand je tombe, je fais un passage, je reviens, hop, deux ou trois framboises. Hop, je continue, je refais et... Bon, mais voilà, c'est sympa, quoi. Ouais. On a le goût de la framboise. Et puis, alors, la framboise, elle est bonne, elle est sucrée. Elle est, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et que tous les gens qui peuvent avoir un potager ou se faire un petit jardin, c'est sympa, quoi.
Oui, voilà. Et puis, pensez aux échantillons. On n'est pas obligé d'avoir des rangées entières. On peut se faire dans un massif de fleurs, introduire 3 ou 4 pieds de tomates cerises et on va se faire plaisir. Et on peut, voilà, on n'est pas obligé de passer dans le potager industriel.
Ouais.
Et comme ça, on s'enlève des inhibitions et peut-être que l'année suivante, on en fera davantage sur une plus grande surface. Et on va peut-être essayer une autre variété. On n'est pas obligé de faire voilà, de l'énorme potager d'entrée. Et puis, bon, ça peut être aussi l'occasion de papoter avec les voisines ou les voisins, les papy-mamies qui sont toujours prêts à partager leur savoir. Parce que là aussi, il ne faut pas hésiter à demander. Quoi, ça, voilà, on va vous expliquer que pour éviter la teigne du poireau, il va falloir marier le poireau avec la carotte. Ou alors tremper, comme faisaient les anciens, les petits poireaux dans un mélange d'eau et de javel. Ça, c'est le genre de truc que vous ne trouverez pas voilà, dans les catalogues, dans les revues. Et que les papy-mamies vont être ravis de partager avec vous.
Je crois que c'est ça, lorsqu'on veut débuter un jardin. Je crois que l'idéal, c'est d'y aller avec quelqu'un qui est un petit peu expérimenté, parce qu'on va gagner du temps, hein, parce que les premières erreurs, des fois, on va être déçu, on va dire, ouais, ça ne marche pas, j'y arrive pas. Alors que quand on est avec quelqu'un d'expérimenté, d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a cet échange qui doit être génial entre quelqu'un qui connaît et qui va initier quelqu'un. Donc, il y a cette fierté de dire, voilà. Et puis, on apprend plus vite, hein, on fait moins d'erreurs et on est moins découragé.
Et après, quelquefois, l'observation peut être intéressante. Moi, j'avais changé de jardin, j'avais eu un jardin qui était beaucoup à l'ombre et qui était un jardin avec une terre légère, une terre, c'était un jardin formidable pour les primeurs de printemps. Et je suis passée sur un autre jardin avec soleil toute la journée, une terre riche qui ressemblait à du marc de café, c'était trop bien. Et les variétés qui réussissaient bien dans le premier potager ne réussissaient pas du tout dans le deuxième. Alors qu'on avait eu des super récoltes jusqu'à présent, les mêmes variétés se couvraient de pucerons, de maladies. Donc il a fallu réfléchir. Et en fait, pour arriver à avoir des salades dans cet endroit-là, il a fallu partir sur des variétés italiennes. Alors, d'accord. Pas parce que je m'appelle Baleri, mais parce qu'elles sont adaptées au soleil et que du coup, elles montent beaucoup moins vite et qu'elles vont résister à la chaleur. Après, voilà, quelquefois, il faut aussi inventer un peu, réfléchir, se mettre du point de vue de la nature.
Les artichauts aussi, c'est sympa.
Ah, les artichauts, c'est délicieux. Voilà. Puis qu'est-ce que c'est beau.
Ouais.
Alors, les artichauts, pareil, si vous n'avez pas la place, mettez des artichauts dans un massif de roses. Le mariage entre la feuille argentée de l'artichaut et les roses, c'est vraiment à tomber à l'inverse. C'est très, très beau.
Merci beaucoup, Annick Baleri. C'était une interview pauvre de mon côté.
Non, pas du tout.
La terre, elle n'était pas très fertile.
Non, mais justement.
Et écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine pour continuer nos échanges. D'ici quelques semaines, on parlera aussi... des plantes qu'on appelle médicinales, qui ont des vertus. Et puis, puisque vous aimez un peu cuisiner, pour agrémenter des plats, il y a les épices. J'espère que vous me ferez quelques chroniques sur les épices, d'où elles viennent, et puis dans quel plat on peut les mettre, d'autres un peu moins. Voilà,
vous allez... Quand on pense qu'à une époque, on vendait le poivre au poids de l'or.
Ah oui, le poivre.
Le poivre, voilà.
Alors qu'aujourd'hui,
autour
de la table.
Vous allez dans le supermarché, vous en avez des rayons entiers. Ouais. Et à une époque, c'était une richesse.
D'avoir du poivre.
Voilà.
C'est, oui, je vous dis, on apprend plein de choses.
Notre époque.
Merci beaucoup, Annick Baleri. Bonne semaine à vous.
Au revoir, Philippe.